Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com
Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Les tueurs silencieux ». Les tueurs silencieux, en début de cette série-là, qui parle de ces luttes-là qu'on vit quand on... Quand on grandit, quand on vieillit ou quand on parle de l'enfance, on remarque qu'on nous dit toujours « Chut, fais pas de bruit, dérange pas, chut, 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 calme-toi, pas besoin, attention. » Tu sais, quelqu'un pleure, chut, chut, ça va aller, ça va aller. Enfant fait du bruit, chut, chut, fais pas de bruit. On grandit avec cette idée-là de silence. Parfois, on cherche le silence parce qu'on est écœuré d'entendre le bruit. Mais on a appris en quelque part qu'on doit garder le silence quand on vit des choses. Faut pas en parler, faut pas dire aux autres, faut pas déranger les gens avec ça. Mais ce que je veux vous mentionner à travers cette série-là, c'est que garder ça pour nous fait beaucoup plus de dommages et de dégâts à l'intérieur que d'en parler, que d'ouvrir et de briser le silence. Et certaines de ces choses-là qu'on va adresser dans cette série-là, qu'on va parler des choses qu'on garde en silence avec lesquelles on lutte au quotidien. Et on va regarder dans cette série-là quelques... On va en couvrir quatre, parce qu'évidemment, on pourrait couvrir ça à l'année longue, parce qu'on a des tracas au quotidien, il y a des choses qu'on garde pour nous. Mais je vais essayer de tenter de couvrir dans cette série-là quatre de ces plus grands thèmes-là. Et aujourd'hui, on commence avec celui de... le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sors de ma tête ».« Sors de ma tête », et aujourd'hui, on va parler des inquiétudes. Les inquiétudes, probablement le plus commun des phénomènes avec lesquels on compose, et on compose avec ça à tous les jours, les inquiétudes. On entend juste le mot, puis on commence à s'inquiéter. On entend juste le mot, on fait comme « oui, c'est vrai ». Puis là, on commence, déjà votre cerveau a commencé dans votre tête à s'inquiéter, à penser à plein d'inquiétudes que vous vivez ou que vous avez. Juste parce qu'on mentionne le mot, on s'inquiète. Les inquiétudes. De tout ce qu'on s'inquiète chaque jour. Ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, qu'on va regarder tantôt, dans le texte que Jésus va nous apporter, dans le grec, c'est le sens de s'inquiéter ou des inquiétudes, c'est être partagé, être divisé en deux, être brisé, être en morceaux, coupé en morceaux. Et c'est vraiment ce que ça fait dans la vie de quelqu'un, les inquiétudes. Ça nous brise en deux, ça nous divise. On s'inquiète, puis on sait très bien qu'on devrait pas s'inquiéter. On le sait, ça. Aujourd'hui, mon message n'est pas « je veux vous apprendre de pas vous inquiéter ». Parce que je sais que vous savez qu'on devrait pas s'inquiéter. Mais on le fait pareil. Et c'est vraiment une réalité avec laquelle on compose. Dans ma vie, je me considérais pas vraiment un gars qui s'inquiétait. En fait, je pensais pas que j'étais un gars qui s'inquiétait. J'avais l'impression que j'étais un gars qui s'inquiétait pas. Jusqu'à ce que j'aie des enfants. Non, c'est... Mais en fait, je croyais que j'étais pas inquiet. Tu sais, c'est pas grave. Mais c'est quand j'ai eu mes enfants et à la troisième grossesse de mon épouse, on a eu plusieurs complications, hospitalisation, puis toutes sortes d'affaires, puis ça se met à nous consumer en dedans. Ça se met à ronger, à faire plein de petits bébés, cette affaire-là. Tu sais, on s'inquiète d'une affaire qui s'inquiète d'un autre, puis on part dans une espèce de spirale qui finit jamais. Ça nous arrive tous de nous inquiéter. Tous. Vous avez tous ressenti ce genre de choses-là. Tu sais, pourtant, on se dit, ah, ça semble juste normal que tu t'inquiètes pour ta femme, pour tes enfants, que tu t'inquiètes pour les amis, que tu t'inquiètes pour ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont faire. Ça paraît normal. Puis comme je vous dis ça, puis je suis sûr que vous vous dites, ben oui, mais c'est normal qu'on s'inquiète. C'est juste normal. Moi, ce que je trouve hallucinant quand je lis la Bible, c'est de voir à quel point Jésus, et c'est ce que j'aime de Jésus, de son ministère, c'est à quel point il aborde de façon pertinente et souvent directe ce genre de situation-là dans notre vie que nous, on prend pour normal. C'est normal. Pourquoi Jésus adresse ce sujet-là? Pourquoi Jésus amène ça dans ses discours? C'est qu'en réalité, c'est que ça vient au cœur de la vie et de l'existence des humains. C'est central, ça fait partie de nos vies. C'est une question courante. Et dans le texte, mais en fait, on va prendre une partie, c'est dans Matthieu au sixième chapitre, mais Matthieu 5, 6 et 7, Jésus fait une espèce de long sermon énorme qui est appelé le sermon sur la montagne. Peut-être que vous avez déjà entendu parler le sermon sur la montagne. Et Jésus m'a parlé de plein de sujets, multitude de sujets comme le bonheur, la vie spirituelle, les relations humaines. Il aborde plein de choses. Puis au chapitre 6, il va aborder les inquiétudes. Il va parler des inquiétudes, mais ce qu'il faut, c'est que le verset avant, le texte qu'on va lire aujourd'hui qui parle des inquiétudes, vous allez comprendre, je vais vous mettre en contexte. Vous savez, j'aime ça, toujours qu'on comprenne le contexte de quelque chose, de pourquoi c'est adressé comme ça. Et on le verset qu'on va lire juste avant, c'est avec ça en réalité, que c'est cette section-là qu'on a bâti, où j'ai bâti la série « Généreux point ». C'est juste le verset avant. Jésus parle d'argent à ce moment-là. Jésus est en train de parler d'argent parce qu'il sait que l'argent est un des sujets principaux d'inquiétude des humains. Il sait ça. Et vous le savez aussi. Et regardez bien ça, ce qui va se passer. Il apporte cette phrase-là dans Matthieu au 24e chapitre, 6, verset 24. 6, verset 24, qui dit ceci. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et c'est là qu'on va comprendre le début de sa phrase. Alors regarde, parce que tout ce texte-là, c'est un long discours. C'est pas une affaire qui est faite aujourd'hui, c'était mon premier cours, puis on s'en voit demain, puis on recommence. C'est un texte, une discussion qui est en train d'avoir. Et il va dire ça, regardez bien ça. Verset 25, juste après, il continue en disant, « Voilà pourquoi je vous dis. » Le « voilà pourquoi », quand il y a « voilà pourquoi », lisez la phrase avant. Quand quelqu'un dit « c'est pour ça que je dis ça », ben avant le « c'est pour ça », ça se passe là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes sûr? Votre corps est là? Donc, il va apporter cette phrase-là. « Voilà pourquoi je vous dis », Jésus dit « ne vous inquiétez pas ». Ah ouais. Au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? En fait, dans certaines versions, il va l'inverser. Est-ce que la vie est pas plus importante que le manger et que les vêtements? Est-ce que ça vaut pas plus? En fait, si je prends ce texte-là, Je vais le remettre dans notre contexte à nous, dans un contexte plus contemporain. C'est comme Jésus disait, la vie n'est-elle pas plus que de courir tout le temps? La vie n'est-elle pas plus que de vivre dans la crainte constamment? La vie n'est pas plus que de s'inquiéter pour tout et pour rien? La vie, c'est-tu pas plus que de se retrouver en vacances brûlé et incapable de décrocher? La vie, c'est-tu pas plus que de passer des nuits à ne pas dormir? La vie pas plus que de se tourmenter pour demain? Est-ce que la vie n'est pas plus que de se retrouver ici le dimanche à penser à sa semaine et se trouver la semaine à penser au dimanche? La vie, c'est bien plus que ça. Et je prie que ces messages-là puissent vous apporter la vie. De comprendre que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Le thème des inquiétudes est très, très, très profondément attaché au cœur humain. Il est vraiment intrinsèquement lié. Et inquiétude, les inquiétudes, c'est quoi? Définition d'inquiétude, état pénible, déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. L'inquiétude. Le problème qu'on fait face quand on essaie de se convaincre que l'on n'a pas à s'inquiéter pour telle ou telle chose, parce qu'on fait ça, on se bat avec nous-mêmes. Non, je devrais pas m'inquiéter pour ça. On aimerait-tu pas être, je sais pas si vous êtes comme moi, juste à pouvoir prendre votre cerveau puis de le déconnecter avant de vous coucher? Ou de dévisser la tête puis la mettre sur la tête de nuit, sur la table de nuit? Juste de dire, hey, arrête, là. J'aurais pas le goût de faire ça parfois. Juste que ça fasse, il faut que ça arrête. J'ai beau dormir, je me repose pas. J'ai beau m'endormir, mais je me réveille fatigué. Je me suis inquiété, je m'inquiète. Et on veut pas ça, on ne veut pas s'inquiéter. Mais ça se produit pareil en nous. C'est là. Ça fait partie, puis on haït ça. On vit dans un pays d'abondance. En fait, je dirais de surabondance. Puis on s'inquiète de ce qu'on va manger. On a peur. Pourtant, c'est ici qu'il y a cette plus grande peur-là. C'est en Amérique du Nord. C'est en Amérique du Nord qu'est la plus grande crainte de manquer de nourriture. Quel paradoxe. C'est fou. C'est ironique. Tout ce monde-là de livres qui vont avec le programme, toute la patente, c'est fou de penser que cette inquiétude de manquer de nourriture est présente dans un pays qui vit dans l'abondance. Et regardez bien ce que Jésus va faire. Il va venir en rajouter une couche. Verset 27. Regardez ce que Jésus va dire. « Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? » Moi, là, honnêtement, quand je lis ce texte-là, je me disais, c'était-tu nécessaire de mettre cette phrase-là? J'avais compris dans l'autre phrase. Ça, c'était comme dindant, là. Ça fait mal, celle-là. Tu sais, c'est comme, regarde les oiseaux, tu penses pas que tu vaux plus que les autres? Ah, ouais, t'as raison. Hey, écoute, tu penses-tu vraiment qu'en t'inquiétant, tu peux rajouter une durée de ta vie, tu peux prolonger ta vie? Penses-tu ça vraiment? Jésus, vas-y. Et moi, je me dis, pourquoi tu poses cette question-là, Jésus? Je la trouve direct dindant, moi. Et là, on va voir, regardez bien ça, on va lire les versets qui suivent jusqu'au verset 34, tu vas aller voir. Verset 28, ça dit, « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez encore, regardez, comment poussent les fleurs des champs. » Les fleurs, sérieux? Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, le plus grand, extraordinaire de toute sa richesse, n'a pas eu des vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas bien à plus forte raison? Vous-même, comme votre confiance en lui est faible. » Ah, il arrête de finir des phrases comme ça, là. En fait, il est en train de dire, votre foi est tellement faible. Vous avez tellement pas confiance. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Ben oui, c'est facile de vous inquiéter pas. Qu'allons-nous boire? Hein? Oui. Qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez, il sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est pas une chanson country, c'est Jésus qui a dit ça. Ça sonne comme une country, là. Il y a un poids de société. Encore aujourd'hui, il y a un poids sur notre société de comment s'habiller. Comment on doit être habillé? L'accent est mis sur l'apparence. Et le message véhiculé, c'est que pour être aimé, pour être accepté, il faut que tu paraisses bien. Il faut que tu aies la bonne parure. Et malheureusement, à force, et je vais le citer longuement aujourd'hui parce que ce prof-là a eu une bonne influence dans tout ce secteur-là de ma vie, Denis Morissette, je vais le dire souvent, là. Il y a eu un impact majeur. Et une des choses qu'il disait dans un cours, il mentionnait, il dit, il y a des gens qui pensent qu'à force de paraître, ils vont être. Mais tu pourras jamais. Peu importe comment tu cherches à paraître. Puis, tu sais, pensez juste à cette réalité-là de gens qui poussent pour dire, je veux être accepté. Puis, la réalité, c'est qu'on pense que c'est un problème temporel dans le temps qu'on vit. Mais je vais vous annoncer quelque chose aujourd'hui. C'est pas un problème temporel, c'est un problème spirituel. C'est spirituel, ce problème-là. Pensez, puis vous allez voir que le monde essaie de s'approprier la spiritualité. Je pense à certaines affaires qui sont très paraîtres. Il y a une marque qui s'appelle Éternité. Je pense que c'est un parfum. Éternité. Il y a des marques de vêtements, c'est comme pour la vraie vie. Pour la pleine vie, pour une vie épanouie. En fait, on cherche, c'est pas physique, c'est spirituel, cet aspect. On y a une quête qui est là. Il y a un trou, il y a un vide qui est recherché. On veut obtenir, on veut avoir parce qu'on, je pense que si on fait du paraître, on va devenir, on va être. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ça que Jésus essaie d'enseigner puis qu'on va regarder ensemble. C'est, je vais tenter de vous montrer comment ce problème, il est spirituel. Alors, regardez bien ça. Le problème qu'on vient de regarder, il est spirituel. Ça se passe, comme je dis souvent, ça recommence toujours au début, ça revient toujours au début à la création avec Adam et Ève. Le problème, le déraillement, il se passe là. Le train, il a déraillé là, quand le péché est entré dans le monde. Et regardez bien dans Genèse, au 3e chapitre, le verset 6, c'est là que ça déraille. Ça dit, la femme vit que les fruits de l'arbre étaient, regardez, agréables à regarder, l'apparence, qu'ils devaient être bons. S'ils sont beaux, ils devaient être bons. Qui donne envie d'en manger. Alors, regardez bien, vous allez voir. Pour acquérir un savoir plus étendu, elle en prit et en mangea, puis elle le donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Vous allez voir qu'il y a l'apparence et la nourriture. La même chose que Jésus a parlé tantôt. L'apparence, le manger. Manger, vêtements, apparence, nourriture. Même chose. Le même sujet est revenu encore, c'est les deux mêmes affaires. Et le dilemme que nous faisons, avec lequel on joue ici dans ce domaine, dans ce moment, c'est que il va se passer une transaction. Il va y avoir un échange qui va avoir lieu. Adam et Ève ont échangé dans le texte l'invisible et le spirituel pour le visible et le matériel. Ils ont échangé leur relation avec Dieu pour une possession ou pour une chose. Ils ont échangé l'éternel pour le temporel. Et on fait face à la même difficulté encore aujourd'hui. Le même problème. Et c'est pour ça que Jésus adresse le sujet. Ce problème, il est spirituel. Mais nous, on veut pas le régler par Jésus. On veut le régler par des affaires. Par des choses, en obtenant, en acquérant des choses. Ah, si j'ai plus d'affaires, je vais être plus heureux. Le temporel, les gens cherchent à combler un vide intérieur par des choses extérieures. Et je veux vous dire quelque chose de bien clair aujourd'hui. Il n'y a rien de ce qui est extérieur à nous qui peut venir combler ce qui est à l'intérieur de nous. Rien. Peu importe comment tu manges, la qualité extraordinaire, tu peux t'acheter les plus belles choses. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut combler ce vide-là dans le cœur humain. Les gens cherchent des réponses spirituelles dans des choses matérielles. Les gens cherchent des valeurs éternelles dans les choses temporelles, le ici et le maintenant. Les gens cherchent l'invisible dans le visible. Et les gens cherchent le relationnel dans les bébelles. On achète tellement de choses aux autres, principalement nos enfants, parce qu'on n'a juste pas le temps de s'occuper de ces personnes-là. On essaie d'acheter. On achète. C'est fou. Et Jésus dit, la vie, c'est tellement plus que ça. La vie, c'est plus que cette réalité-là. Tu sais, on ne regarde pas tout dans la vie, puis on se félicite dans le sens que quand je vais arriver, là, il y a personne qui se dit à la fin de sa vie, tu sais, qui va être sur son lit de mort, ou à la fin, qui va se dire, « Ah, j'aurais dû m'acheter plus d'affaires. » Il y a personne qui se dit ça. Personne qui dit, « Hey, oh oui, en 99, quand ils ont sorti cet auto-là, j'aurais dû donc l'acheter. » Personne. C'est pas comme ça. J'aurais dû faire plus de voyages. Puis là, confondez pas voyage pour être en relation avec les gens, puis grandir. Et avoir, voyage juste pour essayer de combler le vide. Ah, si seulement je m'étais acheté un bateau. Ou un chalet. Ou un autobus. Un avion. N'importe quoi. Si seulement je m'étais acheté plus de patentes. Je m'étais acheté plus de cadeaux. Si je m'étais fait plus plaisir encore. C'est pas mal en soi de posséder des choses. Je veux que vous compreniez, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand ça devient notre objectif et possession, c'est qu'on passe à côté de la vie. On est en train de passer complètement à côté. On a beau acheter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a le goût d'avoir, ce que les gens ont besoin, ce sont des relations significatives. Être aimé pour qui je suis, malgré qui je suis. Je fais une nuance aussi. Le danger, c'est que, et là, je le dis Je parle pas de l'Église principalement ici, là. Je parle en global. Le danger, c'est que l'Église soit tellement sous influence extérieure que l'on devient comme ça. Que c'est la paraître qui est plus important que être. Que la vie est plus importante dans les choses que dans les gens. C'est pas nous qui devons... Tu sais, je pense à... C'est pas nous qui devrions être en train de dire... puis regarder le monde dans lequel on vit, puis dire, hey, c'est ça, j'aimerais tellement voir ça, je voudrais tellement être demain, je voudrais tellement avoir telle affaire. C'est les gens de l'extérieur qui devraient être en train de dire, je veux tellement voir ce que vous avez. Et on combat cette réalité-là des inquiétudes tout le temps. Je vais vous dire quelque chose. 40% du temps, on s'inquiète pour des choses qui n'arriveront jamais. Pensez-y, là. 4 fois sur 10, vous inquiétez pour des choses qui n'arriveront jamais. 30% pour des choses qu'on ne peut changer, que vous ne pouvez rien faire. On est rendu à 70%. 12%, on s'inquiète parce qu'en quelque part, on se sent inférieur. C'est-à-dire, oh, je sais pas, je vais être à la hauteur, je sais pas, j'ai ce qu'il faut. On s'inquiète pour ce genre de choses-là. 10%, on s'inquiète pour la santé, qui, elle, se détériore en s'inquiétant, en passant. C'est ça. 8% pour des situations où on pourrait faire quelque chose, mais où on fait souvent rien. On s'inquiète. Et je veux faire rapidement 5 raisons bibliques pourquoi ça sert à rien de s'inquiéter. 5 rapides. Premièrement, les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie. Jésus dit la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. J'ai dit, ça, c'est bien plus. Évidemment, nous, on a besoin de manger puis de se vêtir. On est au Canada, là, on comprend, là. Et le problème n'est pas dans la légitimité de ces choses-là. Dieu le sait. Jésus dit, il sait ça. Le problème est que les inquiétudes, c'est ces tourments-là que ça nous occasionne. C'est ça qui devient problématique. Denis Morissette, justement, disait, je pense que je l'ai mis à lire. La peur des problèmes cause plus de problèmes que les problèmes en eux-mêmes. On a plus peur des problèmes qu'on va faire face, qu'on fera jamais face, que les véritables problèmes qu'on rencontre. Que la plupart du temps, on fait rien pour. C'est étonnant de découvrir qu'une bonne partie de l'économie de nos sociétés tourne autour de ces deux pôles-là, industrie de l'alimentation puis industrie du vêtement. C'est les deux gros pôles de notre vie. C'est exactement ça que Jésus adresse. Et c'est exactement le problème qu'on a vu en création. C'est toujours le même problème. Le problème, c'est pas temporel, c'est pas dans le temps qu'on vit, c'est spirituel, c'est intérieur. Il est là, le problème. Et Jésus dit, c'est pas de l'extérieur que viennent les problèmes, c'est de l'intérieur. C'est du cœur que viennent les problèmes. Et Jésus dit, ben moi, j'ai une solution pour le cœur. Mais nous, on fait comme, non, n'importe quoi. Mon problème, c'est que je manque d'argent. Mon problème, c'est que je manque de nourriture. Mon problème, c'est que j'ai pas de rien à mettre dans mon garde-robe. Combien ici ont un garde-robe dans lequel ils ont rien à mettre dedans? Ouais, hein? On ouvre le garde-robe, là. Écoute, ça déborde, là. Puis il y a des tablettes, là. Puis on fait, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. C'est vrai qu'on fait ça? Seulement, on remet toujours les 3-4 mêmes affaires. On en gardera, puis il est plein. C'est fou comment on est. Et je suis pas en train de rire de nous autres, je suis juste en train de dire à quel point c'est une réalité qu'on arrive à ce point-là de réaliser que la nourriture et le vêtement sont les deux grands pôles de notre société. Ce qui nous amène parfois à observer que, puis malheureusement, la nourriture est plus que la vie. On se dit. Tout thérapeute sait que le rapport à la nourriture met en lumière les besoins affectifs des personnes. Les gens mangent parce qu'ils ont besoin d'amour, parce qu'ils se sentent seuls. Ils mangent leurs émotions littéralement. Ils filent pas, ils mangent pas. Ils filent pas, ils mangent. Tout a rapport à la nourriture. Ça revient toujours à la même chose. Le vêtement est plus que le corps. Les gens mettent l'emphase davantage sur l'apparence que sur le besoin réel. Pareil devient plus important que être. Puis ça démontre la profonde fragilité qu'on a, que l'être humain a de son estime de soi et de sa confiance en lui. Parce qu'il dit, si je suis bien habillé, j'ai confiance en moi. Mais tu sais que je pourrais arriver ici, là, avec des Bermudas puis un T-shirt, puis je vais prêcher la même affaire, là. Si j'ai confiance en ce que Dieu m'a donné. Puis je pourrais arriver ici avec un complet, avec tuxedo, puis toute la patente, puis me planter totalement. Mais en quelque part, on se convainc que si j'ai un tuxedo, je rentre dans une pièce, j'ai plus de crédibilité. Il y a quelqu'un qui disait, vaut mieux rentrer dans une pièce, paraître pour un fou, que d'ouvrir la bouche et d'enlever tous les doutes. Mais la réalité, c'est que c'est pas ce que tu portes, c'est ce que tu dis. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui se passe, c'est le être. La deuxième chose que ça fait, deuxième point, c'est que les inquiétudes n'augmentent en rien la durée et la qualité de notre vie. On peut s'inquiéter toute la nuit, non? Ça augmente pas notre vie puis ça l'améliore pas notre vie. Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à la durée de sa vie? En fait, c'est pas une question dans le sens où ça attend une réponse. Jésus est pas en train de dire, moi je peux faire ça, je peux ne pas m'inquiéter, moi je peux rajouter à la longue durée de ma vie. Il y a personne qui peut répondre à ça, là. C'est une réponse qui clôt toute réflexion et toute discussion. C'est une question qu'il pose pour nous faire réfléchir. Les inquiétudes rongent, usent une personne et ont un effet direct sur la qualité de sa vie intérieure et de ses relations avec les autres. Combien de temps perdu à se morfondre et se stresser pour des choses qui n'arrivent la plupart du temps jamais. Nous nous inquiétons pour la fin du mois, pour nos enfants, pour nos relations, pour l'avenir, pour le travail, pour la météo. On s'inquiète pour n'importe quoi. Sans que ça change quoi que ce soit. Vous savez que ça influe rien, hein? Notre niveau d'inquiétude ne modifie pas le problème. Ça n'a aucune incidence. Et je vous dis, et je le dis sans ironie, en fait, les inquiétudes raccourcissent la vie. Ils ont bien plus de problématiques sur la santé que ça améliore. Mary Hemingway disait, « Préoccupez-vous un peu chaque jour et tout au long de votre vie. Vous perdrez ainsi quelques années. Si quelque chose ne va pas, réglez-le. Réglez tout si vous le pouvez, mais ne vous inquiétez pas, parce que l'inquiétude ne règle jamais rien. » Hey, c'est même pas chrétien, ça, là. Il y a plein de monde qui réalise ça. Puis comme je vous disais tantôt, on le sait. Mais ce qu'on a besoin, c'est de prendre le dessus sur ça. Et c'est Jésus qui dit, il nous dit pas quelque chose d'impossible, Jésus. Jamais il va nous dire, ne vous inquiétez pas, mais ça va être impossible. Pourquoi tu dis ça d'abord? Pourquoi tu me demandes de pas m'inquiéter si tu sais que je vais m'inquiéter? Je m'inquiète déjà de ça. Je m'inquiète du fait que je vais m'inquiéter. Jésus, dis-moi pas ça, je m'inquiète, là. Les inquiétudes. Troisième chose que ça fait, les inquiétudes, ça dénote notre manque de foi. Peut-être que vous avez entendu cette phrase-là, puis vous dites, là, c'est assez. Tu sais qu'il y a du monde en ligne qui ont fait, moi, j'arrête d'écouter maintenant. Mon manque de foi m'a tant fait, moi. Jésus nous interpelle en démontrant que Dieu prend soin de sa création. Et il insiste sur ce fait-là à encore plus forte raison. Il dit, regardez les oiseaux, puis regardez les fleurs. Je vais le dire pour qu'on comprenne. Check the wall. Ça veut dire, en dehors de toi. Combien de fois on peut lire dans les psaumes comment la création nous parle? Le roi David va mentionner à quel souvent dit, la création me parle d'un créateur. Elle me montre sa splendeur. Elle me démontre ses merveilles. La création parle. Mais est-ce que je l'observe puis je l'écoute? La plupart du temps, non, je suis rongé par mes inquiétudes. Et là, il dit, regarde les autres. Check the wall. Moi, là, vous savez, chez nous, on a souvent des beaux jets bleus qui viennent à la maison dans les arbres autour de la maison. Plein de jets bleus. C'est tellement joli. Et c'est pas les joueurs de baseball, là. C'est pas les Blue Jays, là. C'est vraiment les jets bleus, les oiseaux. Et ces jets sont tellement beaux. Et ils viennent, là, ils ont un bleu extraordinaire. Et on est deux à les regarder, moi puis ma chienne. La chienne, elle aime beaucoup les oiseaux, les écureuils. Elle observe beaucoup la créature. Faites-vous-en pas. Elle voit, écoute, je sais même pas qu'il y a un écureuil, qu'elle l'a senti, elle l'a entendu, je sais pas comment elle l'a fait. Elle l'a trouvé, puis je l'ai même pas encore vu, moi. Et la réalité, c'est que la création nous démontre à quel point on peut faire confiance à Dieu. Parce que Dieu dit, Jésus est en train de dire, regardez les oiseaux, puis regardez les fleurs. Eux autres, là, ils font rien. Puis Dieu s'occupe d'eux autres. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui ont un chat ou un chien à la maison ou un animal de compagnie? Ouais. Avez-vous remarqué, moi, j'ai fait encore le test dans les derniers jours. J'observais la chienne, puis elle se dit pas « qu'est-ce que je vais manger tantôt? » Elle se dit pas « j'espère que je vais manger tout à l'heure. » Elle se dit pas ça. « Qu'est-ce que je vais faire demain? » Tout d'un coup, que demain arrive pas. Elle pense pas à ça. Ça, c'est ce qui nous dénote du monde animal. Mais nous, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le problème, c'est qu'on a déraillé. Le péché nous a fait tout twister. Puis il est en train de dire, revenez, regardez ce que Dieu fait. Il prend soin de vous. Et il va leur dire, gens de peu de foi, gens qui n'ont pas confiance en Dieu, s'il y a quelque chose sincèrement, puis je le dis en toute transparence, que j'aime pas me faire dire par Dieu, c'est que j'ai pas confiance en lui. J'aime pas ça. Je le sais qu'il a raison, là. Mais j'aime pas ça. Ça me dérange, ça. Ça vient me chercher quand il me dit, t'as pas confiance en moi. Ben là, dis pas ça de même, là. Comprenez-vous? Je voudrais qu'il l'enveloppe dans du cadeau, dans un beau papier cadeau, là, pis. Mais non, il est plus, hey, c'est parce que tu me fais pas confiance. Ben oui, je te fais confiance, mais c'est parce que. Et j'ai toujours une extraordinaire excuse, hallucinante, que lui va balayer du revers de la main. Jean, peu de fois, ça nous démontre les inquiétudes, notre difficulté à faire confiance à Dieu. On regarde les circonstances, on regarde aux personnes, on regarde aux événements qui arrivent, aux mauvaises nouvelles que les médias font tourner en boucle, et on perd de vue Dieu. Nos inquiétudes masquent notre vision de Dieu, comme les nuages couvrent le ciel, couvrent le soleil dans le ciel. La même affaire. Les inquiétudes viennent camoufler ça. Winston Churchill disait ceci, « Quand je regarde en arrière à toutes ces inquiétudes, je me souviens de l'histoire du vieil homme qui, sur son lit de mort, a avoué qu'il avait eu beaucoup d'ennuis dans la vie, dont la plupart n'étaient jamais arrivés. » Quatrième chose que ça fait, les inquiétudes, il révèle notre manque de maturité spirituelle. Ah, là, c'est sûr que je décroche, là. Hein? Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui les cherchent. Oh! Il est en train de leur dire, vous qui connaissez Dieu, ça devrait pas être ça, votre quête. Ça devrait pas être ça, votre poursuite. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui poursuivent ça. Pas vous! Manque de maturité spirituelle. Tu cherches pas la bonne affaire. Tu cours pas dans la bonne direction. Dieu, votre Père qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Il démontre que la véritable vie du croyant est différente de celle des non-croyants. Le christianisme est sans force et sans effet s'il n'est pas vécu pleinement. Denis Morissette disait, la vie chrétienne est impossible à vivre si elle n'est pas vécue chrétiennement. Réfléchissez à ça. Comment vivre la vie chrétienne? Oui, mais si tu la vis pas en Jésus pleinement, elle est horrible, elle est pénible, elle est difficile, elle est lourde. Ben oui, parce qu'elle n'est pas vécue par Jésus, elle est vécue par toi, mais ça, tu pourras jamais y arriver. Parce que si tu pouvais, tu n'avais pas besoin de Jésus finalement. Comprenez-vous? Si tu es capable par toi-même, qu'est-ce que Jésus fait là? Mais Jésus vient parce qu'on peut pas. Fait qu'il dit, c'est en moi que vous allez pouvoir. Faites confiance en moi. Reposez-vous en moi. Ayez confiance en moi. Appuyez-vous sur moi. Parce que sans moi, vous pouvez rien faire. Le christianisme est sans effet s'il n'est pas vécu chrétiennement. C'est pas le dimanche que l'on reconnaît les véritables chrétiens. Sans offense, là. C'est pas le dimanche. C'est les autres jours de la semaine. C'est là que ça se passe. C'est là l'effet. À l'Église, on est dans une espèce d'environnement de bulle aseptisée. Je peux créer de chrétiens ici, tout le monde est chrétien. Mais quand je suis plus dans ce bulle-là, c'est là que le christianisme prend toute sa force. C'est là que c'est différent. Quand les gens ils voient une vie différente, ils disent, toi, t'as quelque chose que moi, j'ai pas. Comment ça se fait? Comment ça coûte avoir ça? Et ça s'est passé dans la Bible. Quelqu'un qui voulait acheter ça. Hey, je veux ce que vous avez. Cette puissance-là, cette vie-là que vous avez en vous, je la veux. Je dis, ouais, mais c'est gratis. C'est gratuit, ça coûte rien. C'est, tu peux l'avoir si tu veux. Combien ça coûte pour être heureux comme toi? Là, ce n'est pas le reflet de la vraie vie quand on la vit pas pleinement, chrétiennement, quand on vit dans ce monde aseptisé-là. Les enjeux de la vie se manifestent à la sortie de l'Église habituellement. C'est drôle, ces portes-là ont une magie. On s'en vient à l'Église. Je sais que c'est pas vous autres, mais ça, c'est des histoires d'ailleurs. Là. Mais dans le char, ça gueule, ça crie. Pas de bonne humeur. Hein? On traverse les portes. Hey! Ça va bien, Dieu est bon. Dans un Dieu de bénisse. Oui. Ces portes-là sont extraordinaires. Et on sort dehors. Ça n'a pas de bon sens ce soir-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ces portes-là. Il se passe une transformation à travers ces portes-là. L'effet, c'est dans les combats de tous les jours qu'on grandit dans notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle se développe ou s'affine et les gens remarquent la différence. J'ai invité Nico, on va terminer. Et cinquièmement, qu'est-ce que les inquiétudes font? Les inquiétudes ne changent strictement rien à notre condition. L'inquiétude est une réaction, pensez-y là, vous comprenez, l'inquiétude est une réaction passive à un problème. C'est une réaction passive. Elle cherche à résoudre ce qui n'est pas à sa portée. L'inquiétude cherche à résoudre quelque chose qui n'est pas à sa portée. Lorsqu'on s'inquiète, c'est notre imagination qui entre en jeu. Notre cerveau crée des scénarios. Et peut-être que vous êtes dans la catégorie, vous autres, scénario catastrophe. Vous êtes capable de vous imaginer la fin du monde avec une boîte de thon dans l'armoire. Vous êtes capable de faire un scénario complètement hallucinant. C'est notre créativité, c'est ce côté-là qui rentre en ligne de compte. On fait des scénarios catastrophiques plus échafaudés les uns que les autres. On les montre, puis écoute, hey. Puis vous le dites à la personne, vous dites, si le monde savait tout ce que j'ai pensé, il capoterait. Regardez bien ce que Jésus dit dans Luc, au 12e chapitre, à propos de ça, verset 26. « Si donc, vous ne pouvez rien faire pour ce qui est très peu de choses, pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? » Vous pouvez rien faire. Si vous avez affaire à un problème, si vous pouvez le résoudre, vous n'avez pas besoin de m'inquiéter, résolvez-le. Et si vous pouvez pas le résoudre, mais les inquiétudes ne le résoudront pas. Elles vont pas améliorer la situation. Denis Morissette disait, les seuls problèmes impossibles à résoudre, ce sont les problèmes imaginaires. Il n'y a pas de solution pour ça. Il n'y en a pas. Parce que il y a toujours un scénario qui va exploser de ça. À toutes les fois qu'on se fait une nouvelle histoire, il y a une nouvelle... Même si on trouve une solution, il y a quelque chose qui pop d'ailleurs. Non, mais tout d'un coup, il arrive ça. Puis on dévie comme ça tout le temps. Et là, notre cerveau fonctionne là en ébullition comme pas possible. Les seuls problèmes impossibles à résoudre, ce sont les problèmes imaginaires. Il n'y a pas de solution pour ça. Les inquiétudes n'empêchent jamais les lendemains difficiles. Mais vous vole la joie du moment présent. Denis Morissette, professeur qui est en relation d'aide, et Daniel Descarrés aussi, que j'ai eu comme professeur en relation d'aide, tous les professeurs en relation d'aide me donnaient toutes la même affaire. Et ils travaillent tous, Daniel Descarrés, que vous connaissez, qui passe souvent, qui a travaillé longtemps en psychiatrie à l'hôpital Douglas. Annie Morissette, psychothérapeute aussi, dans l'ordre des psychologues du Québec. Des gens qui ont étudié énormément, ils reviennent tous à dire la même phrase. C'est qu'il faut se travailler à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui nous arrive depuis s'inquiéter. C'est pas un souhait pensée magique. C'est pas juste un « je m'inquiéterai plus, tout va bien aller ». Non. Il y a des choses qui vont mal aller, je vous le dis. Il y a des choses qui tournent pas bien. Mais de s'inquiéter ne varie rien de ça. Ne modifie en rien s'ils arriveront ou pas. Ne modifiera en rien leur teneur, leur portée. Si je m'inquiète beaucoup, peut-être que ça va être moins pire. Non. Comme je disais tantôt, les inquiétudes n'empêchent jamais les lendemains d'être difficiles, mais vous volent la joie du moment présent. Vous vivez à crédit avec ça. Vous hypothéquez le maintenant pour quelque chose que vous n'avez pas besoin. Ce qui alimente nos inquiétudes est, plus que tout, notre impuissance et notre perte de contrôle. C'est ça qu'on a peur. Les inquiétudes viennent de là. Oh, mais d'un coup qu'arrive ça, OK. C'est parce que tu as perdu le contrôle ou de vouloir maîtriser le contexte, de vouloir être en contrôle de tout. Mais vous savez, vous ne pourrez jamais être en contrôle de tout. Et c'est là que Dieu dit, moi, je peux tout, je peux tout. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et lui de dire, mais tu me fais pas confiance. T'as pas de foi en moi, t'as pas cette foi-là en moi, t'as pas confiance que je vais m'occuper de toi. Et si on est honnête et transparent, là, on est obligé d'être d'accord. Parce qu'on essaie de vouloir contrôler les choses au lieu de faire confiance en Dieu. Dieu est souvent notre roue de secours. Celui vers qui on va quand tout va mal. On se tourne vers lui au dernier recours. C'est pas Dieu en premier. C'est pas notre première réponse d'aller vers Dieu. C'est qu'on essaie, on épuise toutes nos ressources, toutes nos inquiétudes. Puis après ça, on fait comme, mais Seigneur, fais quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'il dit, mais oui, mais tu peux me faire confiance tout de suite, maintenant? En d'autres occasions, ce sont les événements qui arrivent, on s'inquiète de l'avenir, de notre santé, de notre travail, mes enfants. Je pense à mes enfants, je pense à mes trois filles qui les chums. Trouve pas ça facile. Les filles veulent pas me les présenter parce qu'ils disent toujours, il n'y en a jamais un qui est assez bon pour nous. Il me dit toujours, en fait, c'est que je veux pas qu'il tombe sur un gars comme moi. Non, mais je veux pas qu'il... comme j'étais. On s'inquiète. Si vous cherchez des occasions de vous inquiéter, la vie va vous en fournir abondamment. Il n'y a rien n'est parfait. Mais il est temps de prendre cette ferme résolution de faire confiance à Dieu en toutes choses. Dans les grands besoins comme dans les petits détails. Et je sais que la vie est pas facile, je sais. Et je comprends qu'il est difficile de pas s'inquiéter, je le comprends. Mais la vie chrétienne est indissociable de la vie de foi. Romains 1, verset 17, vu que vous êtes pas convaincus. Romains 1, 17 dit ceci. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. La foi, c'est la mode de vie du chrétien. C'est-à-dire, faire confiance à Dieu, c'est son mode de vie. C'est pas seulement en mesure d'urgence ou quand on est dans le trouble qu'on utilise « sortons la foi de notre coffre ». C'est pas ça. C'est toujours, en tout temps, en toutes circonstances, de faire confiance à Dieu. C'est quelque chose à cultiver à chaque instant. C'est, je vais le répéter, c'est quelque chose à cultiver à chaque instant. Ça fait partie du fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi. Oh, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est pas toutes les niaiseries qu'on dit pas au monde. Tu sais, toutes les affaires qui nous passent par la tête qu'on dirait « je maîtrise de soi ». Non, non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on se dit à nous-mêmes aussi. La maîtrise de soi. De prendre le dessus, de dire « OK, j'ai plus confiance en Dieu que j'ai peur ». Ça te dit pas que j'ai pas peur. Ça dit pas que je m'inquiète pas. Dieu sait très bien qu'on va s'inquiéter. Il vous reproche pas de vous inquiéter. comme Jésus, et c'est toujours la même chose qu'il a fait. Si Jésus a fait un reproche à ses disciples, c'était toujours la même chose. Manque de foi. Pourquoi vous avez pas confiance en moi? Jésus, pourquoi vous avez pas confiance en moi? Je vous ai pas prouvé que vous pouviez avoir confiance en moi. Ah oui, Seigneur. Ah oui, tu l'as prouvé plusieurs fois à part de ça. Mais pourquoi donc? T'as pas confiance en moi quand il arrive cette circonstance. Mais tu sais, tu comprends que Jésus, c'est pas facile. Non, c'est une lutte quotidienne. Et en ce moment, prenez juste un instant pour vous... Prenez, je sais que vous avez plein de préoccupations dans votre tête en ce moment. Et d'être capable de les remettre entre les mains de Dieu. D'être capable de lui dire, Seigneur, mes filles ont des copains, ça me tracasse. Seigneur, telle situation, ça me tracasse. Ça m'inquiète. Je veux plus de foi. Je veux avoir confiance en toi. Je veux mettre ma vie en toi. Je veux mettre pas juste la mienne, la vie de mes filles, la vie de mon épouse, la vie de ma famille, la vie des gens que j'aime, la vie des gens que je rencontre. Seigneur, je veux te faire confiance. Je vous ai dit quelque chose il y a quelques semaines, que c'est un parcours, c'est un processus. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai appris. Et une des choses que j'ai appris, c'est de faire confiance à Dieu avec mes filles. D'apprendre à faire confiance à Dieu. Et une des leçons qu'il m'a appris, vous allez pouvoir l'appliquer dans vos inquiétudes. À un moment donné, j'ai vraiment le Seigneur qui me met en cœur et me dit, tu sais, tes filles, là, je les aime encore plus que tu peux les aimer. J'ai donné mon fils pour elles. J'ai un amour illimité pour elles. Encore plus que tu peux t'imaginer dans ta tête. Encore plus que tu penses que tu les aimes à l'infini. Mais ça représente pas l'amour que moi j'ai pour elles. Et je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes qu'elles sont encore plus en sécurité entre mes mains qu'entre les tiennes. Pour un papa, c'est pas facile à entendre. C'est pas cool. Non. Ça fait pas comme, Non, j'étais comme so-so, là. J'étais comme, j'ai trouvé ça ordinaire. J'ai rien de me dire que je les aime pas. Pas ça que je dis. Juste que, peu importe la portée de ton amour, le mien est encore plus loin que ça. Et y a rien si tu me fais confiance. Le Seigneur me dit, laisse-moi les choses dans mes mains. Tu peux rien changer par tes inquiétudes. Quand même, tu te morfondrais, ça changera rien. Dites à Dieu qui vous tracasse, vos inquiétudes. S'il faut, possible, faites-en une liste. Peut-être un cahier même. Peut-être un roman, ça se peut. Dépendamment de ce qu'on a. Il est possible qu'on en ait une panoplie, un documentaire avec ça. Toutes les inquiétudes de ma vie. Comme si vous vous confiez à un ami, un thérapeute, une personne importante pour vous, confiez-vous à Dieu, car lui seul peut comprendre vos souffrances et vos inquiétudes. Il sait ce que vous vivez. Et sachez qu'il vous aime. Vous êtes précieux, c'est ce que Jésus dit. Ne valez-vous pas plus qu'eux. Il veut votre bien et votre bonheur. Il veut prendre soin de vous. Et pour ça, je dis, juste apprendre à remettre nos inquiétudes. C'est au quotidien. Identifiez-les. Hey, je suis en train de m'inquiéter, là. OK. Seigneur, je m'inquiète pour ça. Ça me tracasse. Ça me perturbe. Donne-moi ta paix. Prenez une minute à toutes les fois. Prenez le défi, pas le défi, mais la discipline d'identifier puis de lui remettre. Je sais, Seigneur, je sais que je m'inquiète. Vous allez voir, vous allez prier pas mal plus souvent que vous pensez, finalement. Parce que toutes les fois que je m'inquiète puis que je prie le Seigneur, j'ai l'impression que je prie tout le temps.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.eglisem.com www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.